Le film commence sur un long plan séquence. On suit un homme qui marche à travers des bois, pas en ligne droite, à la recherche de, et on trouve tranquillement par la suite. Il y a plusieurs plans séquences de commentaires, de regards et d'interrogations. Prends l'affiche cette semaine, ce 19 janvier à Montréal, Destierros, le film signé Hubert Caronguay, un documentaire d'1h30 sur cette terrible réalité des migrants d'Amérique centrale vers le nord. Destierros, donc exil. Hubert Caronguay, mon invité. Bonjour Hubert Caronguay.
Oui, bonjour.
D'abord, comment avez-vous réussi à avoir la confiance de ces gens pour les suivre caméra à la main comme ça?
J'avais commencé déjà mon exploration en 2014. Je m'étais porté volontaire dans un refuge pour migrants dans le sud du Mexique, tout près de la frontière du Guatemala. Et là, déjà, j'avais été en contact avec ces personnes-là et j'avais pu en connaître un peu plus sur leur situation. Mon but était de connaître le nouveau visage de la migration. Mm-hmm. Par la suite, ça a été vraiment un contact à l'intérieur de ces refuges-là, des refuges qui sont là principalement pour aider les gens à prendre un repos. Je vous dirais, juste être dans une situation qui est le plus calme possible, le plus sécuritaire possible.
Ne serait-ce que pouvoir manger un peu, se laver, se détendre, dormir.
Exactement. Mm-hmm. C'est principalement ça. C'est aussi s'assurer que c'est un lieu où, sécuritairement, les gens pouvaient être dans un état qui était le plus sécuritaire possible. Et étant donné que c'était la vocation du lieu, mm-hmm. eh bien, c'était plus facile pour nous, pour moi et le caméraman, d'entrer en contact avec ces personnes-là et de gagner leur confiance.
Et il y a des commentaires durs aussi. Il y a cette femme qui raconte la violence qu'a subie son frère, la famille qui est blessée. Il y en a d'autres qui racontent « faut que tu envoies de l'argent au pays, sinon c'est ta famille qui va y goûter ». Dans le pays, on arnaque des gens qui sont finalement des gangs petits, des gangs très petits. Pendant que les Américains font ça à 150 $, nous, on est prêts à le faire à 15-20 $.
Exactement. Ouais, cette situation-là, c'est à Tierra Blanca, dans l'état de Veracruz. Une personne, on était sur le bord de la traque de chemin de fer, et on était dans la tente avec eux. Ça a été souvent ça au courant du tournage. Donc, c'est d'être très près d'eux, avec eux, assister à leur attente, assister à leur appréhension aussi. Cet personnage-là nous raconte, on restait près de lui, puis on est curieux de notre présence. Il s'est approché, puis il a voulu nous parler pour essayer de comprendre, tout en affirmant des choses qui étaient un peu insensées parce qu'il trouvait que c'était pas nécessaire pour les États-Unis de fermer les frontières.
Est-ce qu'en cours de route, il y a eu des moments de danger pour vous deux?
À certains moments, oui, parce qu'évidemment, les chemins de fer sont des zones qui sont les plus sécuritaires, tout simplement parce qu'il y a des personnes, soit les autorités eux-mêmes sont très présents, il y a des gens qui sont sur les dents, c'est-à-dire que la majorité des personnes qui essaient de monter vers le nord sont très anxieux, presque des fois paranoïaques par rapport à leur situation. Ils veulent pas se faire prendre. Ça serait tellement désastreux pour eux de se faire prendre par la migration et de se faire déporter dans leur pays, étant donné tout le temps, l'énergie et l'argent qui est impliqué, qu'ils sont très, très, très paranoïaques. Et donc, oui, ça fait en sorte qu'à certains moments, il y a des gens qui étaient peut-être un peu plus frontales par rapport à nous, là, qui nous approchaient pour savoir qu'est-ce qu'exactement on faisait. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même très bien. Il y avait aussi des personnes qui étaient intoxiquées sur le bord des voies ferrées. On peut comprendre justement toute cette anxiété. Je pense qu'il faut la passer, la mettre de côté le plus possible. Donc, il y avait certaines personnes qui trouvaient le moyen finalement de consommer soit l'alcool pour faire baisser le taux de...
De tension.
C'est ça, exactement. On était seulement deux à faire le tournage. Mm-hmm. Donc, ça faisait en sorte que lorsqu'on s'approchait des gens, on n'était pas une menace. Et au contraire, je pense que le fait d'avoir une caméra, les gens autour de nous, les personnes migrantes, ont compris que la caméra même nous protégeait nous-mêmes en tant que cinéastes, mais protégeait aussi les migrants eux-mêmes. Parce que lorsque la migration des fois débarquait, donc il y avait 2 à 3 camionnettes prêtes à embarquer certaines personnes migrantes qui attendaient sur le bord des tracts de chemin de fer, et en voyant la caméra, ça faisait en sorte que les personnes remontaient dans leur camionnette et partaient au loin en disant « ben on ne veut pas passer aux nouvelles, on ne veut pas passer. » On ne veut pas qu'il y ait des témoins de nos attaques envers les personnes migrantes.
Il y en a un qui pose une question. Est-ce que le gouvernement américain paye le Mexique pour arrêter et retourner ces gens-là en Amérique centrale?
Oui, tout à fait. Je laissais parler le plus que je pouvais, mais je pense que la personne elle-même répondait à sa propre question.
Oui, hein, tout à fait.
C'est bel et bien le cas. On entend souvent parler que les États-Unis, finalement, pour repousser la migration à leurs frontières, sont prêts à payer les autorités mexicaines pour repousser en amont le plus possible, pour être sûr que ça ne se rende pas dans leur cours. Mmh. Donc, on paye les personnes au Mexique pour repousser la migration.
Il y a une scène touchante aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y en a une très particulière où il y a quelqu'un qui dit « Non, tu ne pourras pas y aller avec ta petite-fille », à un papa, une jeune demoiselle qui a à peu près 9-10 ans tout au plus et qui est en petite sandale, parce qu'elle ne pourra pas s'accrocher pendant une dizaine d'heures à un wagon. Et lui, non, il dit « Je l'amène. » Avez-vous des nouvelles? Savez-vous s'il l'a amenée?
C'est ce couple-là, on ne l'a pas revu. Lorsqu'on les a vus attendre justement le train et on fait des essais, on les a vus faire des essais pour monter sur les trains, le père et sa jeune fille, mm-hmm. pour voir si c'était possible de le faire. Et par la suite, ils se sont éloignés le plus près possible de la gare de triage qui permettait peut-être de monter sur le wagon lorsque les wagons sont à l'arrêt ou dans un mouvement qui est très, très, très lent, qui leur permettrait probablement de monter de façon beaucoup plus sécuritaire. Et évidemment, lorsque les wagons sont en marche, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, oui. plusieurs recherches que j'avais faites justement en 2014, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui tentaient, et justement, lorsqu'on les voyait avec leurs sandales, perdre leurs sandales littéralement lorsqu'ils courent pour attraper le train, on se rend compte que la suite du voyage va être pénible. Pour avoir essayé moi-même de monter sur les trains, physiquement, c'est quelque chose de très exigeant. Et là, je n'imaginais pas non plus la responsabilité du père par rapport à son enfant oui. pour s'assurer sa sécurité. Évidemment, il y a en plus de monter sur le train, de s'accrocher, de rester éveillé pendant une dizaine d'heures jusqu'au prochain arrêt. Il y a aussi des personnes qui embarquent sur le train qui sont mal intentionnées. Donc, ça aussi, c'est un danger. Et une personne qui est encore plus vulnérable, un père et sa fille, peuvent être, ciblés oui. les premiers.
En quoi est-ce que ce film-là vous a changé, vous, comme cinéaste et comme humain?
La rencontre de ces personnes-là, ben, chaque jour, on rencontre des nouvelles personnes. Chaque jour, les réalités sont différentes, parfois semblables, mais très dures, en fait. Je me suis rendu compte que les migrants, pour la plupart, mettent beaucoup leur situation dans les mains de Dieu pour la sécurité de leur voyage. N'étant pas moi-même pratiquant et la notion de Dieu était beaucoup plus loin de moi, j'ai compris jusqu'à quel point il était nécessaire pour eux de s'en remettre à Dieu, à un être supérieur pour la suite de leur voyage. Le voyage est tellement dur que si on doit croire qu'il y a quelqu'un qui nous amène à nous rendre finalement à l'objectif visé, c'est presque impossible de garder espoir. La résilience de ces gens-là, leur volonté d'y croire, leur détermination, c'est des choses qui nous changent parce que être en contact avec ce genre de détermination-là, de volonté d'atteindre la liberté, la sécurité, ce n'est que ça. Au bout du compte, il y a évidemment les enjeux économiques, mais surtout la sécurité.
C'est une quête de paix et de vie de paix.
Exactement. Et ça pourrait sembler très banal pour nous, mais lorsqu'on rentre en contact avec ces personnes-là, alors avec leur réalité, avec leur visage, c'est un peu ça que le film tente d'exprimer, c'est d'entrer dans une immersion à travers leur voyage. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off. Ce sont les migrants qui parlent pour eux-mêmes. Et lorsqu'on les laisse parler, on se rend compte de la dureté de leur réalité. C'est difficile de parler avec des gens qui n'ont connu ou qui ne connaissent qu'un rapport de discrimination, d'intimidation et de violence physique à leur endroit. C'est parfois très difficile de les côtoyer au quotidien à cause de toute la charge, finalement, qu'ils transportent avec eux.
Projeté en compétition officielle en première mondiale à Vision du réel en Suisse, récemment première nord-américaine aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, Destierros prend l'affiche cette semaine dès le 19 janvier. Destierros, l'exil, a été réalisé et produit par Hubert Caronguet. Hubert Caronguet, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Merci à vous.